développement. Une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Comment se comporter en cas de tremblement de terre? Les tremblements de terre sont parfois signalés dans certaines régions du pays. Le dernier en date s'est produit la nuit du 30 octobre dernier à Bukavu, dans le sud Kivu. Et c'était un séisme de magnitude 5,3 qui a secoué la ville de Bukavu ainsi que la sous-région de Grand Lac. Ce mouvement tectonique a également été ressenti à Goma, au Nord Kivu, à Walungu, dans la plaine de la Ruzizi, jusqu'à Uvira. Même le Burundi, le Rwanda ont également ressenti les secousses. Alors il y a eu quelques dégâts matériels, particulièrement la paroisse catholique et au couvent des sœurs de Bourale en territoire de Walungu. Alors comment se comporter en cas de tremblement de terre? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit de Kasereka Mahinda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Monsieur Kasereka, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'aller plus loin, aidez-nous à comprendre c'est quoi un tremblement de terre et qu'est-ce qui cause cela?
Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais vous dire que nous sommes sur Terre et la Terre mène aussi sa propre vie. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la Terre est constituée par des compartiments. Et ces compartiments, c'est comme une maison que vous construisez, il y a des murs. Et chaque fois, quand ce mur bouge, bien quand ce compartiment bouge, c'est le tremblement de terre, c'est la terre qui est en mouvement. Donc, en un mot, le tremblement de terre, nous pouvons aussi l'appeler séisme, c'est le mouvement de la terre. Donc, je disais, la terre est constituée de plaques, et quand ces plaques bougent, c'est le tremblement de terre qui est généré. Alors, pour notre cas, nous sommes dans le fossé d'effondrement ouest africain, que nous appelons branche occidentale du système du rift est africain, qui va de l'Égypte, du nord de l'Égypte, et au niveau du sud vers l'Éthiopie, ça se divise à des branches. Nous avons la branche qui passe par le lac Turkana au Kenya, et l'autre qui passe par le lac Albert, et continue vers le lac Tanganyika pour se retrouver vers le lac Nyasa, qu'on appelle lac Malawi. Et ce sont ces deux rifts, dans la partie est, qui sont en mouvement. Et ce mouvement là-bas, ce mouvement là-bas crée des tremblements de terre qui sont réguliers. Alors, nous avons l'activité de tremblements de terre dans cette partie, au niveau du bassin du lac Tanganyika, du bassin du lac Kivu, on a dans les Rwenzori, et on peut continuer aussi au-dessus vers le sud-soudan. C'est là où nous avons beaucoup de tremblements de terre. Donc, pour revenir à votre question, les tremblements de terre sur le mouvement de la terre. Donc, La terre mène une vie comme nous vivons aussi. Il s'exprime par des tremblements de terre, mais par des phénomènes volcaniques.
Voilà, les tremblements de terre, c'est tout simplement les mouvements de la terre. Alors pourquoi, qu'est-ce qui explique le fait qu'on enregistre beaucoup plus des tremblements de terre dans la région du Sud Kivu?
Pas seulement dans la région du Sud Kivu, puisque, nous, comme je l'ai dit, nous avons des bassins. Le bassin, la limite entre le bassin du lac Tanganyika et le bassin du lac Kivu, va de la zone de Kamanyola, continue vers Nyangezi jusqu'à Walungu, pour les gens qui connaissent la région. Alors, il y a une grande, ces plaques là-bas, ces plaques de cette partie là-bas sont très actives et bougent à tout moment. Et l'activité est très intense. Et c'est ce qui exprime la régularité des tremblements de terre. Mais ce n'est pas seulement dans cette région, puisque nous en avons aussi dans le bassin du lac Kivu, au niveau de la région de lac Kivu, nous en avons dans les Rwenzori. Là, c'est puisque ça a causé des dégâts, mais c'est régulier. Il y a des tremblements que vous ne ressentez pas, mais la Terre est toujours en mouvement, souvent en mouvement, et à tout moment, au niveau de notre observatoire, nous enregistrons ce mouvement, mais puisque c'est faible, mais cette fois-ci, c'est la Terre s'est exprimée avec un grand ampleur de magnitude 5.3. C'est pourquoi, à cause des dégâts, c'est pourquoi, à quoi que il n'y a pas de tremblement, la Terre, mais que c'est régulier là-bas. Mais c'est dans toute la région, c'est la partie est.
Alors, on dit que l'épicentre se trouve dans les territoires de Walungu au sud-ouest de Bukavu. Et ces tremblements de terre étaient d'une profondeur de 10 km. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Pour vous dire plus, c'est que nous, à l'observatoire, c'est nous qui recevons d'une manière réelle, à temps réel, tous les enregistrements de la région. Donc nous avons ça à l'observateur à temps réel. Alors, on a deux sortes d'observations. C'est que nous avons la partie qui observe le volcan, mais nous avons aussi des stations qui sont en dehors, donc des appareils qui sont en dehors de la région, comme à Luiro, aussi du Kivu, nous en avons au niveau du Rwanda, l'Ouganda, et tout ressort au niveau de l'observatoire. Là, nous avons l'avantage d'avoir ça en temps réel. Alors, nous devons localiser. Les enregistrements nous arrivent en temps réel. Nous localisons ces enregistrements, nous les analysons manuellement. D'abord, ça peut être analysé automatiquement, mais on a besoin de l'homme pour essayer d'ajuster les données. Alors, après avoir enregistré, nous allons localiser. On nous donne un point sous forme d'un point, et c'est ce point-là que nous appelons un épicentre au niveau de la surface de la Terre et à profondeur. Donc ça peut nous indiquer maintenant à quel endroit le tremblement de terre a été généré, et c'est là ce que nous appelons foyer. Alors la distance entre là où le tremblement de terre a été généré et la surface de la Terre, ce que nous appelons profondeur ou bien la hauteur. Alors, l'épicentre au niveau de la surface, même si c'est un point, mais c'est toute une zone là où le tremblement de terre a été ressenti avec grande ampleur et ça a causé beaucoup de dégâts. C'est là, nous appelons ça zone épicentrale. Donc, un peu à la surface, c'est l'épicentre, la zone là où le tremblement de terre a été ressenti avec beaucoup d'ampleur. Et au niveau de la distance entre la surface et la profondeur, et le lieu là où le tremblement de terre a été généré, c'est ce que nous appelons hauteur. Alors, le lieu là où le tremblement de terre a été généré, nous appelons ça foyer. C'est cette distance entre la surface et le foyer que nous appelons hauteur.
D'accord. Alors, revenons maintenant au thème du jour. Lorsqu'un tremblement de terre survient, il y a la panique. Les gens peuvent courir dans tous les sens. Il peut y avoir des dégâts, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Alors, comment se comporter lorsque un tremblement de terre survient, et surtout que c'était la nuit, les gens dormaient déjà. Comment se comporter dans ces cas-là?
Merci pour la question. Nous allons situer ça à deux niveaux. D'abord, pour répondre à votre question, quand vous ressentez un tremblement de terre, il faut éviter la panique. Donc, évitez la panique, gardez votre calme, restez à l'endroit où vous êtes. Quand le tremblement de terre vient d'avoir lieu, vient de se passer, sortez directement, puisqu'il y aura un autre qui peut suivre et qui peut causer plus de dégâts. Alors, vous sortez à l'extérieur, à l'endroit là où loin des bâtiments, quelquefois aussi loin des arbres, et pour attendre calmement ce qui va venir après. Quand la réplique n'est pas encore, quand un autre tremblement de terre n'est pas encore passé, puisque ça va suivre après, il ne faut pas rentrer dans la maison. Et si vous êtes en étage, il faut faire très attention, surtout par exemple les gens qui utilisent les ascenseurs. Vous devez arrêter le système ascenseur et au garde d'abord, ne pas paniquer. Restez là où on est, et quand le tremblement de terre vient de se passer, sortez à l'extérieur, loin des bâtiments. Ça, c'est le premier cas à se comporter. Deuxièmement, ça peut arriver pendant que vous êtes à votre bureau, bien à l'école, il est conseillé de garder votre calme et de se mettre en dessous de votre table. vous mettez en dessous de votre table, puisque si jamais il y avait des, si le mur ou bien le plafond peut tomber, la table peut le soutenir. Il peut vous protéger.
Voilà. Donc, quand il y a un tremblement de terre, pas de panique surtout. Sortez à l'extérieur si vous êtes à l'intérieur de votre maison, loin des bâtiments et des arbres. Ceux qui sont dans les maisons à l'étage doivent rapidement sortir. Et si vous êtes dans votre bureau, se mettre en dessous des tables pour se protéger. On va accueillir un premier auditeur, Oukelo, qui nous appelle depuis Maragui. Des questions et préoccupations, composez les 081-890-6394.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Comment se comporter en cas de tremblement de terre? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Oukelo, vous nous appelez depuis Maragui. Bonjour.
Bonjour, Jedi. Bonjour à tous les invités de la radio Okapi ainsi qu'à monsieur l'invité. Bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Oukelo?
Ok, je crois que l'invité a essayé de me répondre. J'ai voulu poser la question de savoir, à quand des tremblements de terre, qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième question, la petite question, qu'est-ce qui cause les tremblements de terre? Voilà ce que j'ai voulu poser.
Merci. Malonga, vous êtes à Bandounouville, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Je remercie d'abord notre invité qui nous a bien expliqué le tremblement de terre. Bien sûr, c'est un mouvement de la terre qui se passe à un coin de notre globe. Mais ce mouvement est provoqué, c'est bien acheminé, c'est bien localisé. Je crois qu'ici chez nous, à Bandounouville, on n'a jamais suivi ce mouvement. Mais les gens de Bukavu, Goma et tout qu'on sort là-bas, ils se sont déjà habitués. Alors, il faut bien se préparer et il faut bien se référer de ce mouvement-là, des conséquences de ce mouvement-là, pour bien échapper à ce dégât. Alors, moi, je veux compléter notre invité. Le tremblement de la terre est dû au déplacement de magma. Peut-être l'invité va ajouter. Au déplacement de magma, à une distance de profondeur là, que l'invité va expliquer. Alors, ce déplacement-là, il y a des spécialistes, comme l'invité là, qui doit, avant que ce mouvement s'effectue, il faut qu'ils annoncent ça à la population du milieu. C'est très important, s'il vous plaît, puisque la population est distraite, ne savent rien. Mais, comme la population vit dans cette région-là, il faut que les spécialistes du domaine doivent veiller pour avertir la population qui habite. Mais sans cela, en tout cas, je dis, on va déplorer seulement. L'invité conseille et il ne faut pas paniquer, mais la population devant un fait doit toujours être paniquée. Alors, il faut que le chargé du domaine, en tout cas, doit veiller pour ne pas être accusé de malfaisance et de ceux qui participent aussi au malheur de la population. Je crois que la question de mon confrère qui m'a précédé, c'est bien, qu'est-ce qui cause ce mouvement? Oui, ce mouvement de la Terre, oui, ce mouvement. Nous connaissons que la Terre a des mouvements, la rotation et la translation. Mais cet autre mouvement est causé par quoi? Je crois que j'ai un peu commencé la réponse, mais l'invité est là.
Bon, aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus sur les comportements, les gestes à poser en cas de tremblement. Bon, on n'est pas beaucoup plus dans l'étude des causes du tremblement des terres. Merci d'avoir appelé Malonga. On va donner la parole à Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour, Jonas.
Bonjour, M. Jodier.
On vous écoute.
Merci bien. Moi aussi, je pouvais poser la question relative à la différence qui existerait entre les tremblements de terre dans les zones volcaniques et les tremblements de terre, l'éboulement de terre qui arrive, par exemple, lors du passage d'un train. Et alors, est-ce qu'on peut parler des tremblements de terre, par exemple, une moitié de la terre dans une forêt très courte au passage du train, et ça fait des morts. Est-ce que c'est aussi ça un tremblement? Et la deuxième question, à quelle distance les gens doivent habiter par rapport au lieu où il y a, par exemple, des montagnes qui créent des tremblements de terre, pour éviter le fait qu'une fois qu'il y a des tremblements arrivent, que les gens commencent à fuir dans tous les sens. Alors, ils doivent habiter à quelle distance pour que si jamais cela arrivait, qu'ils aient quand même un sang-froid. Bon, merci. C'est ça la petite question que j'avais posée à l'invité.
Bien, merci. Dieudonné, vous êtes à Arou. Bonjour.
Oui, c'est tombé sur le pied donné à Paris, territoire. Quand deux, j'ai seulement quelques questions pour que notre invité. La première, c'est de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette tremblement de terre. Deuxièmement, quelles sont les précautions à prendre en dehors de ce phénomène, car d'autres se trouvant au bord du lac tel que chez nous, au bord du lac Albert, nous passons non pas le moyen de se sauver si ce n'est que s'échapper sur l'eau, et encore cela ne s'annonce surtout pas, vu les relais compliqués. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, j'aimerais savoir encore si notre réalité peut nous éclaircir. À quelle année le séisme ici a-t-il déchiré le monde et où est-il en était le bilan? Quatrièmement, à cas de dégâts matériels et humains, les sinistrés ont toujours besoin de regagner ces régions. Y a-t-il pas un secret ou bien autre mécanisme pour lequel on pourrait cette fois-là dire aux gens qui habitent cette région de quitter cette région parce que ça devient répétitoire? Enfin, y a-t-il les moyens pour barrer route à ce phénomène? Et puis, si ce mouvement surprenait quelqu'un après de manipuler ces outils informatiques, que considérer notre invité à ce logiciel-là?
Bien, merci. Monsieur Kassereka, vous avez la parole.
Ok, merci. Je voulais d'abord préciser, je suis en train de parler à des termes simples pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc, je ne voulais pas utiliser les termes techniques. Mais première question, origine du tremblement de terre, c'est parce que tout le monde a déjà utilisé un œuf, il connaît un œuf, l'œuf de la poule ou bien un avocat, ainsi de suite.
Oui.
La terre est constituée de trois compartiments principaux. Il y a la coquille pour l'œuf, ce que nous appelons sur la terre, c'est la croûte terrestre ou bien l'écorce terrestre. Nous avons le blanc d'œuf que nous appelons le manteau, et nous avons aussi le noyau pour bien jaune d'œuf, ce que nous appelons le noyau de la terre. Alors, pour préciser, le noyau de la terre est à peu près à 6000 degrés Celsius. Étant à 6000 degrés Celsius, alors, cette matière à fusion monte à surface, en montant à surface, il va rencontrer l'écorce terrestre. Et en rencontrant l'écorce terrestre, c'est là où tout ce phénomène se passe. On doit avoir, il y a des endroits là où la matière peut sortir à surface puisqu'il y a une zone de faiblesse. Deuxièmement, la matière ne peut pas sortir à surface, mais c'est absorbé par les roches ou bien les pierres qui sont dans l'écorce terrestre.
Monsieur Kassereka, là c'est tellement technique que peut-être qu'on ne maîtrise pas, on n'arrive peut-être pas très bien à comprendre. Alors revenons d'abord sur les gestes et les comportements à poser en cas de tremblement des terres. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure. Il a dit par exemple, pourquoi ne pas annoncer à la population parce qu'il y a un observatoire. Sûrement, vous avez détecté les mouvements à temps. Pourquoi ne pas faire l'annonce, dire à la population, faites attention, et puis prenez les dispositions nécessaires.
Très important. À vrai dire, personne au monde n'a prédit exactement le tremblement de terre comme le fait pour le volcan. Tout ce que nous connaissons, nous pouvons identifier les zones qui sont sollicitées par des tremblements de terre. Mais dire à telle heure, tel jour, ainsi de suite, c'est difficile. Donc, les scientifiques jusqu'à présent n'ont pas encore précisé, même au niveau du Japon, là où il y a la grande expertise, ils parviennent à prédire les tremblements de terre aujourd'hui, quelques secondes après. Donc ça, c'est une précision de taille. Ce que je peux recommander aux auditeurs, nous avons l'information sur toutes les zones qui sont dans notre pays, qui sont sollicitées par des tremblements de terre. Alors, quand vous construisez des ouvrages, par exemple, c'est beau de construire un matériau durable, il faut toujours chercher l'expertise et on ne peut pas fuir, c'est ce que je voulais ramasser la question, on ne peut pas fuir un tremblement de terre, mais on peut s'adapter. Donc, comme nous connaissons les endroits qui sont sollicités par des tremblements de terre, quelle ampleur de tremblement de terre peut avoir à ces lieux, nous pouvons vous conseiller, avec votre ingénieur ou votre constructeur, de s'adapter à la construction, de l'adapter au milieu, et vous pouvez résister au tremblement de terre.
Quel type de maison construit, par exemple, dans cette région qui est beaucoup touchée de l'Est et qui est touchée beaucoup plus par les tremblements des terres? Faut-il aller en étage, construire, aller en hauteur, ou bien il faut des maisons basses? Avec quel type de matériaux les construire?
Non, ça dépend maintenant du technicien, de l'ingénieur que vous avez cherché. Puisque je me rappelle, j'étais à Yokohama, comme quelqu'un posait la question, en 1923, il y a un grand tremblement de terre qui a eu lieu à Yokohama, au Japon. Ça a détruit toute la ville à Yokohama, mais c'est là où il y a le plus grand building du monde, avec plus de 70 étages, puisque on s'est adapté au séisme qui peuvent avoir lieu à cet endroit. Donc, les ingénieurs, les constructeurs, après avoir reçu ça, nos informations, ils peuvent construire en fonction de ça et votre maison va résister au tremblement de terre. Je voulais signifier à nos auditeurs que quand il y a un tremblement de terre, celui qui suivra sera de grande ampleur plus que l'autre qui a précédé. Donc ça, c'est une précision de taille. Par le cas de Walungu, par exemple, en 76, le 5 décembre 1976, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 5.1, et maintenant, dans la même zone, on a eu un tremblement de terre de magnitude 5.3. Donc ça, c'est un exemple. On peut vivre avec le tremblement de terre, mais l'essentiel, c'est de s'adapter. Votre constructeur, votre ingénieur, quand vous faites un plan de travail, vous voulez construire, vous voulez investir, il faut toujours consulter les spécialistes, pas se réveiller, commencer à monter une maison. On peut toujours s'adapter à cette maison. Donc, pour répondre à votre question, dans des régions, là où il y a le tremblement de terre, s'il faut dépasser quel niveau, non, ça c'est l'expertise, on peut toujours dépasser, aller à hauteur. Ce qui est différent des volcans, puisque là nous sommes sur des roches volcaniques.
Voilà, Jonas a posé la question de savoir, y a-t-il une différence entre un tremblement de terre et l'éboulement causé par le passage d'un train, par exemple?
Ok. L'éboulement, nous pouvons appeler glissement de terrain, comme le mot le dit, c'est le glissement de terrain. Ça, c'est... Le glissement de terrain, c'est d'abord, c'est un phénomène aussi de déboisement. Si la terre, comme je vous ai dit, la terre mène, nous sommes sur la terre, mais la terre mène une vie, tout le monde doit savoir ça. Maintenant, quand nous nous attaquons, par exemple, à déboiser dans la terre là où nous sommes, il est facile, quand, comme la terre est en train de mener une vie, que la terre aussi puisse glisser. Donc, la terre mène sa propre vie, et si vous déboisez ce qui peut soutenir le sol, vous commencez à couper les arbres, vous commencez à cultiver sur les montagnes sans aucune norme, ça peut entraîner un glissement de terrain, un éboulement, et nous pouvons rencontrer des endroits pareils. Donc, ce sont des choses qu'il faut protéger. Nous l'avons fait, j'espère, à Beni. Les agronomes connaissent quelle sorte d'arbres on peut planter pour que la terre ne puisse pas glisser. Donc, c'est toute une incertitude. Tout le monde doit jouer son rôle. Et ne pas permettre à ce que les tremblements de terre peuvent causer des éboulements, puisque quand vous avez construit sur un endroit très de faiblesse, ce que nous appelons un endroit de fer ou de faille, quand le tremblement de terre est lié, ça peut séparer des compartiments et on aura un glissement de terre. Donc ça peut être dit à cela, mais la plupart des choses c'est dû justement au déboisement. Donc il faut éviter des choses pareilles. Consultez les agronomes pour nous indiquer les arbres à planter sur les hautes altitudes.
Alors quelqu'un a posé la question tout à l'heure de savoir si on est dans une région enclavée et que la seule sortie c'est vers le lac par exemple, est-ce qu'en cas de tremblement on peut s'enfuir du côté du lac?
Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est un problème. Ça dépend de quelle ampleur du tremblement de terre. Puisque le plus souvent, le tremblement de terre provoque un redémarrage, ce que nous appelons le tsunami. Après une heure, s'il y a un tremblement de terre violent, vous allez avoir des vagues. Et ces vagues là-bas peuvent vous causer encore des dégâts. Tout ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de vous éloigner, ne pas aller vers le lac, puisque vous n'avez pas la pression sur la magnétude, mais souvent les tsunamis se créent, les ras de marée se créent quelquefois après la magnétude 6. Quand le tremblement de terre a une magnétude 6, on peut avoir un ras de marée. Mais je ne conseille pas d'aller vers le lac.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs, Thierry Umba de Manono et Platini Mbombo de Mbandaka. Comment se comporter en cas de tremblement de terre? Thierry Umba, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, d'abord, la première préoccupation que je dis, vient de poser la question de savoir quelle est la maison et la construction de la maison pour s'échapper au tremblement de terre. Mais j'ai peur concernant notre invité, puisque l'invité a dit, si vous êtes dans les bureaux, vous devez vous cacher sous la table.
Oui.
Mais ma crainte et ma peur, c'est que on ne sait pas c'est quelle force du mur d'abord. Par exemple, des bureaux en étage. Vous êtes sous la table. Maintenant, le mur, une fois descendu sur vous là, est-ce que ça ne peut pas casser la table et vous tuer sur place? Moi, je pense que de préférence, c'est mieux de fuir, quitter le bureau et rester quelque part. Mais si vous restez sous la table, et puis peut-être c'est une table-là fabriquée en bois, vous ne voyez pas que ça peut encore causer et ajouter d'autres dégâts. C'était ça mon ajout.
Merci. Platini Mbombo, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Jeudi, bonjour. Bonjour les invités, bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Merci beaucoup, Jeudi, et je crois que je tiens d'abord à vous féliciter. Et aussi, je voudrais quand même présenter mes condoléances. Hein. Je crois que dans le Nord aussi, il y a aussi des familles qui ont éprouvé par rapport à ça. Je dis à bien suivre la thématique et aussi en suivant l'invité du jour par rapport à la question. Et moi, je pense que le tremblement de terre, comme vous avez annoncé, comment se comporter pour ça. Et moi, ce que moi je fais, parce que je suis à l'Équateur, dans la ville de Mbandaka. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais connu tremblement de terre. Ce que moi je vis et je constate, il y a ce qu'on appelle l'éclipse soleil. Mais je dis, comme l'invité a dit, parce que j'ai bien suivi, il faut monter sur la table et tout ça. Et
moi, non, pas monter sur la table. Ce n'est pas monter sur la table, c'est caché sous la table si vous êtes dans votre bureau.
Je dis, oui, bien sûr. Je crois que ça, c'est pas aussi la solution. Moi, je voudrais rapidement poser lui la question. Je prends un exemple, comme vous êtes là maintenant à Kinshasa, et s'il y a un tremblement grave à Kinshasa, vous-même, je dis l'animateur du jour, qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne sais pas, on va poser la question. On va poser la question à l'invité.
Oui, merci, Jody. Je crois que j'ai quand même la parole. Je voudrais aussi dire ceci, le tremblement des terres, ce n'est pas question de passer par là, des maisons, tout ça, non, c'est l'œuvre de Dieu. Je sais que quand il n'y a pas un agenda qui dit que non, à telle année, il y a un tremblement de terre. Non. Et comme chez nous sur l'Équateur, nous sommes entourés de l'eau, nous sommes entourés de forêts par-ci par-là, mais comme je vous avais dit, que je n'ai jamais connu un tremblement de terre. ce que moi je constate, il y a ce qu'on appelle l'éclipse solaire. Alors moi, je voudrais avoir un peu d'idée, je crois, deux ou trois, comme si l'invité peut nous dire, si on peut avoir fait le bilan, parce qu'on a bien suivi, au nord, Kivu, tout ça, il y a un tremblement d'été. Est-ce que le bilan, il y a combien de maisons qui sont parties, il y a combien de gens qui sont morts à cause de ça? Et maintenant, si on peut avoir l'idée, qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour ça? Parce qu'on sait compte que il y a un ministère, ce qu'on appelle le ministère de action humanitaire.
D'accord, merci Platini, merci Platini. Merci Platini, on va donner la parole à Dasiva de Luboudi, au Maniema. Dasiva, bonjour. Bonjour Dasiva. Dasiva n'est plus là, voilà. Je reviens à vous, Monsieur Kasereka. Thierry, a posé la question depuis Manono de savoir, vous dites qu'il faut se cacher sous la table. Et bon, on est dans un immeuble, on ne sait pas. Le mur peut tomber sur la table, écraser la table et puis vous tuer sur le champ. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Merci beaucoup pour la question. C'est que je t'ai dit, c'est très intéressant pour les auditeurs. Mais je voulais informer d'abord notre auditeur de l'Équateur pour que je ne puisse pas oublier qu'il y a eu, ce n'est pas régulier à l'Équateur, mais je vous rappelle aussi qu'à un certain moment j'ai été le point focal national de gestion des catastrophes dans le pays de la CIRGL. Nous avons discuté avec nos amis de Centrafrique. Il y a eu quelques fois, ce n'est pas toujours, ce n'est pas régulier comme ici à l'Est, mais il y a des tremblements de terre de magnitude 4. Le 4 là n'est pas ressenti partout, mais ça s'est passé une fois à l'Équateur. Alors, de deux, je voulais préciser aussi, si je n'ai pas évoqué ça, c'est parce que nous sommes dans une zone insécurisée. Normalement, construire, mettre des fenêtres avec des antivols, c'est pas bon. Quand un tremblement de terre arrive, facilement vous pouvez casser votre fenêtre et vous sortez à l'extérieur.
Oui.
Ça, c'est ce qui est indiqué maintenant que nous avons des maisons qui ont des antivols. C'est très difficile. C'est ce qui serait normal et recommandé pour la construction. Alors, l'œuvre de Dieu, où Dieu aussi nous a donné l'intelligence, je vous ai dit que j'ai expliqué l'objet de tremblement de terre. Quand vous vivez sur la terre, sachez très bien aussi que la terre mène sa propre vie. Donc, tout mouvement de la terre, vous ne le ressentez pas, mais nous enregistrons toujours ces mouvements au niveau de l'observatoire. Alors, au point de vue des gars, jusqu'à là, nous n'avons enregistré aucun mort au niveau de, à rapport avec ce tremblement de terre qui a eu lieu le 30 octobre, mais nous avons seulement des dégâts matériels. Et quand on ressent le tremblement de terre, ce sont des ondes qui se déplacent. Quand on ressent le tremblement de terre, c'est déjà un signe que le mouvement est arrivé vers Goma. Et si vous avez construit sur ce passage, certainement ça va ébranler votre maison. Donc, et quand vous êtes en étage, c'est là où là, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle table, ainsi de suite. Puisque nous sommes en train de parler de comportement et nous voulons aider les gens. Par exemple, vous avez des armoires, des armoires au salon, ainsi de suite. Je conseille, pour les gens qui sont dans la région, là où il y a des tremblements, des fréquemment des tremblements de terre, il faut ancrer, il faut bien fixer les armoires dans les murs, puisque quand ça bouge, quand le tremblement de terre bouge, l'armoire peut tomber sur vous et ça peut vous blesser. Vous n'êtes pas mort du tremblement de terre, mais vous êtes mort. Vous êtes blessé à cause des appareils, ainsi de suite. Oui, oui, de ce qui est là-bas. Même fermé, il y a l'habitude toujours de fermer là-bas, mais je conseille qu'on puisse ancrer, fixer les armoires dans le mur. Et parce que tout ça ne tombe pas maintenant. Pour le mur, comme je l'ai dit avant, tout le monde veut avoir une maison à dur. Mais je recommande même à nos services de cadastre, nos services de l'urbanisme, il faut faire un suivi, est-ce que ce monsieur a respecté les normes, il est allé à quelle profondeur pour voir sa fondation, ainsi de suite, quelle sorte de matériel il a utilisé. Pour votre information, j'étais dans une ville de notre région ici, un ingénieur fait son plan de travail, il donne des matériaux, il dit voilà, il faut mettre en terme. Quelqu'un va le chasser et dit, toi, tu veux consommer inutilement, c'est que mon argent. au lieu de mettre 5 sacs, par exemple, pour la fondation, ils préfèrent mettre 2. Alors, dans des conditions pareilles, on ne peut pas tenir quand il y a tremblement de terre. Et aussi, c'est notre recommandation normalement que chaque école, chaque bâtiment, chaque infrastructure, des gros ouvrages, il faut avoir il faut avoir la notion de maintenance, regarder si votre maison garde toujours son équilibre. 2, il faut avoir un plan de contingence. Plan de contingence, c'est quoi? C'est que dans une école, comment vous pouvez évacuer les gens quand il y a tremblement de terre? Vous êtes à un étage. Il faut chercher toujours ce que les gens de la ville appellent les messieurs. Donc, là où les gens peuvent sortir pour...
Oui.
Là où vous pouvez canaliser les gens pour être sauvés de ce problème de tremblement de terre. C'est ce qui est à la mode pour le moment.
Oui, M. Kasserec, parce que... Oui, les gens peuvent se trouver dans un building. En cas de tremblement, là, à cause de la panique, certains peuvent tenter de sauter pour se retrouver en bas et puis le pire peut arriver.
Oui, c'est justement, c'est très dangereux. C'est très, quand vous êtes en étage, il ne faut pas... La merde des choses, quand vous êtes, par exemple, au rez-de-chaussée, vous pouvez casser les fenêtres, vous sortez à l'extérieur. Mais quand vous êtes en étage, c'est ça que je disais, quand vous faites des maisons pareilles, il faut avoir des endroits où il faut évacuer les gens. S'il y a tremblement de terre, comment vous allez passer? Et ce sont des constructions qui existent maintenant. Le modèle doit s'adapter. Là où nous avons étudié au Japon, on a vécu des choses pareilles, des maisons en étage. Vous évacuez facilement. Vous retrouvez quelque part, vous entrez et vous êtes évacué directement. Donc ce sont des choses qu'on doit commencer à concevoir quand on construit des grands buildings, avoir des endroits d'évacuation dans la maison même si vous êtes en étage.
Mmh. Mais pourquoi ne pas commencer à organiser des séances, par exemple dans les écoles, des séances de simulation pour aider les écoles, par exemple, qui sont dans la région où il y a beaucoup de tremblements de terre, pour que, qu'il n'y ait pas trop de panique en cas de... Si il y a le tremblement survenir.
Oh, ici, dans la partie est, nous sommes très loin, on a beaucoup avancé. D'ailleurs, notre document se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur. Dernièrement, nous avons fini avec cette session dans certaines écoles, surtout dans la région là où il y a les volcans. Et on essaie d'initier les élèves, comment ils vont se comporter. Si vous arrivez ici à Goma, par exemple, là où nous travaillons, vous allez voir beaucoup de choses, mais nous voulions que cela soit introduit dans le programme national de l'éducation, à tous les niveaux, pour que les gens puissent apprendre, surtout que nous sommes dans une zone qui est à risque.
Voilà, on va accueillir à Glody Bouanganga de Kikwit et Saïdi de Kalemi. Glody, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Glody Bouanganga de Bande de Ville.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup pour la accordée. Je passe aux questions que je vais poser notre invité. À Kikwit, récemment, il y a des maisons qui sont en train de couler par rapport au fondement. Autrement dit, on peut dire aussi que ce sont des tremblements de terre. Alors, qu'est-ce que les habitants du quartier peuvent se comporter quand les événements comme ça peuvent arriver? Alors, la seconde chose aussi...
Qu'est-ce qui se passe, Glody? Qu'est-ce qui s'est passé à Kikwit? Vous dites qu'il y a eu tremblement de terre?
Oui, il y a eu un tremblement de terre. Communément, à Kikwit, on appelle ça le Bengi. Ici, c'est le Bengi. Donc, c'est-à-dire que la terre commence à s'effondre petit à petit et ça englobe, ça prend même des maisons et puis par terre, tout ça. La semaine est passée, mon cousin a connu des cas comme ça. Alors, au moment où je vous parle, il est dehors, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement? Alors, je pose la
Glody,
question.
Glody, est-ce que vous voulez parler des érosions ou bien il s'agit de la terre a réellement tremblé?
C'est ça, c'est que je suis en train de poser la question à notre invité s'il peut nous expliquer la différence qui se trouve entre les érosions et les tremblements de terre. Parce qu'à Kikwit, ce qui se passe là, on n'arrive pas à distinguer, c'est une érosion ou bien c'est un tremblement de terre. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. S'il peut vraiment correctement nous expliciter, enfin, on puisse comprendre beaucoup de choses. Et quels sont les comportements que les habitants du quartier peuvent s'adapter dans des pareils événements. C'est ça que j'ai voulu poser à notre invité pour aujourd'hui.
Merci. Saïdi, vous êtes à Kalemi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Saïdi.
Oui, j'avais quelques recommandations, trois recommandations par rapport à notre invité.
Oui.
Concernant même le sujet, notre sujet des tremblements de terre. Et face à ça, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des chaînes de télévision ou bien des radios pour qu'on puisse commencer à informer les gens? Parce que souvent, ce sont beaucoup de gens qui n'ont pas même des postes télévisés pour suivre quand même les mouvements. Aussi, il y en a ceux qui sont, bon, ceux qui ont des camions, des voitures, peuvent même être à l'écoute de la situation qui se passe dans la région.
Merci, merci Saïdi. Monsieur Kassereka, vous avez la parole.
Ok. Je m'adresse à notre ami de Kikwit pour lui dire que le tremblement de terre vient à l'origine sous la terre et que l'origine c'est sous la terre, mais les érosions sont à surface. Et les érosions peuvent être liées à beaucoup de choses. Comme je l'ai dit avant, si vous n'avez pas bien entretenu votre avec des constructions anarchiques pour le moment, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de... Alors, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement peuvent se filtrer dans le sol. À se filtrer dans le sol, ils vont partir où? Elles vont partir où ces eaux? Certainement, elles sont accumulées quelque part et ça crée une sorte de nappe dans la région. Donc, à créer une sorte de nappe, vous, sans le savoir, vous venez construire une maison à dur ou bien à matériaux durables, certainement, il y aura un surpoids et la maison va commencer à s'affaisser. Ça peut être une des causes. Ou bien, vous n'avez pas bien fait l'étude, ce que vous appelez l'étude géotechnique, de ce milieu-là que vous avez construit, et on peut avoir la maison qui est en train de s'effondrer. Donc, nous avons un problème de planification, c'est que il faut avoir de construire, avant d'avoir une ville, il faut prévoir les canalisations, ainsi de suite, pour essayer d'étudier. Mais il faut qu'on soit dans la zone, qu'on puisse être dans la zone pour comprendre de quoi il s'agit. Il est difficile de répondre, je réponds vaguement comme ça. Je suppose que c'est ça un peu la situation. Mais le tremblement de terre est d'origine souterraine, sous la terre, mais l'érosion, c'est au niveau de la surface.
Bien, on va accueillir Esther depuis Yarou. Bonjour Esther.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Quelle est votre question?
Voilà, merci. J'ai quelques préoccupations qui posent à mon invité. Je voulais lui demander si un tremblement peut durer au maximum combien de temps? Et puis, un tremblement, c'est à partir déjà de quelle magnitude un tremblement peut devenir vraiment grave? Je voulais savoir si à partir de, n'est-ce pas, à l'origine même des tremblements de terre, c'est-à-dire que ce tremblement il peut s'étendre jusqu'à quelle distance? Parce que dernièrement, je ne sais pas si je ne me souviens pas, je pense que je n'ai pas oublié, il y a à peine une année, il y a eu un tremblement ici à Arou. Bon, je suis ici il y a à peine 5 ans, je pense que je ne me trompe pas. C'était pour moi la première fois de vivre le tremblement de terre ici à Arou. Parce que dans l'état, j'étais à Goma, tout ça, on était habité à ça. Mais ici à Arou, c'est une zone là où il n'y a pas assez de montagnes, il n'y a pas de choses vraiment qui peuvent prédisposer. Mais pour moi, c'était pour moi la première fois. Bon, à ce moment-là, j'étais un peu inquiète. Et le lendemain, tout le monde s'est réveillé, les voisins, il y a eu tremblement, ceci, cela. Mais dire qu'il y a des gens qui puissent mobiliser, parler de ça à la radio, que voilà, hier, il y a eu tremblement, il fallait ceci, ou bien même dans les temps à venir, il faut se protéger, faire ceci ou cela, il n'y en a pas.
Alors Esther,
cela, on est resté comme ça.
Oui. Esther, lorsqu'il y a eu tremblement des terres à Arou, c'était pendant combien de temps et comment vous vous êtes comporté?
Bon, ça n'a pas beaucoup duré, c'était quelques 2 minutes, 3 minutes et tout s'était passé. Bon, moi j'étais déjà endormie parce que c'était passé vers 21h, je pense. 21h, 22h. Alors c'était passé comme ça, moi j'étais sur le lit. Alors ça m'a secoué parce que les choses dans la maison, les assiettes, tout ça vraiment, ce n'était pas beau. Alors j'ai sursauté pour moi. Effectivement, moi, je voulais sortir à l'extérieur parce que moi, j'avais dans la tête que non, s'il y a tremblement, les choses peuvent s'écouler, la maison peut s'écouler, tout ça. Alors, vite dans les chambres des enfants, vite on évacue à l'extérieur tout le monde. C'était vraiment mon comportement. mais les autres, je ne sais pas comment ils se sont comportés. Alors c'est ça, je voulais demander, parce que jusque-là, on ne sait pas d'où vient donc l'origine de ces tremblements-là. Ça a commencé à partir d'où pour venir s'étendre jusqu'ici, ou bien là-bas, c'est ici, ou bien là-bas, c'est ailleurs. Vraiment, on ne sait pas. Alors que notre invité puisse nous aider, faire même des plaidoyers, essayer de nous aider. Si vous, là-bas, je ne sais pas, à Kinshasa ou bien à Goma, dans des grandes villes, vous êtes protégés par des géologues, je ne sais pas qui, mais ici, à Or, nous sommes laissés comme ça. La population ignorante et le colérien.
Merci. Merci, Esther. Mavé, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
On vous écoute.
Bien, merci, Jody. J'avais des petites questions. La famille, je peux dire, c'est juste un petit contrat, un petit constat. L'invité n'est pas du tout précis par rapport à ce qu'il donne comme des précautions, comme des dispositions à prendre quand il y a tremblement.
Oui.
Et là, c'est juste sur le niveau de la surface. Quand il dit, peut-être, vous êtes dans la maison, je pense qu'il a essayé un peu d'en parler, il a justement expliqué, mais moi, je ne suis pas encore là. Convaincu que tout cela, ce sont de mesures qui peuvent sauver les gens de ces mouvements de tremblement. Et imaginez, prenez l'exemple de quelqu'un. Vous l'avez bien acheté là-bas, quelqu'un qui est dans un immeuble à noter, d'un étage. Prenons l'exemple. Comment il peut savoir? Vous savez que le tremblement, c'est un mouvement qui vient subitement. Il n'y a pas un signe. S'il y a un signe, peut-être, sous le plan des professionnels, lui qui est expert en la matière, peut-être qu'il peut expliquer aux auditeurs comment faire, quelles sont les dispositions à prendre quand un tremblement s'annonce, quand ça vient brusquement. Et là, vous voyez que les gens sont exposés. Il peut donner, s'il y a des signes ou des avertissements qui s'annoncent avant les tremblements. Et voilà. La deuxième question. Il a donné des dispositions sur la surface. Prenons un exemple, maintenant des gens, des exploitants de minerais, communément appelés les creusers, qui sont dans des zones
d'exploitation.
Voilà. Si ils sont à l'intérieur, des trous, donc
ils sont sous terre et voilà qu'il y a tremblement de terre.
Et que les tremblements subitement
oui.
arrivent. Quelles sont les dispositions que ces gens qui sont à l'intérieur de la fossée
dans les galeries
se sauver. Voilà.
Merci. Et
comment ils peuvent prendre des dispositions pour se sauver pendant qu'ils sont à l'intérieur? Voilà les deux questions que j'avais à poser. Merci, bonne journée, au revoir.
Bien, monsieur Kateré, quand vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je remercie celle qui est à Aru.
Oui.
À partir de quelle magnitude peut sentir le tremblement de terre? Je répète, la terre est régulièrement en mouvement et les petits mouvements ne peuvent pas les ressentir. Mais il y a des tremblements qui ont par exemple la magnitude 4 sur l'échelle de Richter. Cette magnitude, nous appelons ça des tremblements de terre locaux. Donc, quelqu'un qui est très loin, ça peut ressentir seulement dans la région là où vous êtes. Et peut-être une distance à peu près de 50 km. Mais ça commence, nous appelons des tremblements de terre régionales, quand ça devient des magnitudes supérieures à 5. Et il y a aussi ce que nous appelons tremblements de terre global, c'est la magnitude supérieure à 6. Donc, ça peut être ressenti dans le monde entier. Mais je voulais vous dire que nos équipements enregistrent tous ces tremblements de terre. Donc, de par le monde, nous avons un réseau international qu'on appelle l'ISGS, United States Geological Survey. On est tous connectés, c'est notre référence. On peut se former à partir de ce réseau là-bas.
Monsieur Kateréka, sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Alors, pour les gens qui se retrouvent dans les galeries souterraines, il y a tremblement. À ce moment-là, Mavé veut savoir comment peuvent-ils se sauver.
Alors, la recommandation, c'est celle-ci, monsieur le journaliste. Je me rappelle mon professeur, docteur Zana, qui est à Kinshasa, là-bas, à l'université de Kinshasa. Avec lui, on a établi un réseau national
pour identifier tous ces endroits là où il y a des tremblements de terre. C'était un beau programme, mais dans chaque gisement minier, c'est la recommandation, on doit avoir un réseau sismique. Et le réseau sismique nous permet d'identifier les endroits très sensibles là où il y a des tremblements de terre, puisque même l'exploitation minière génère des séismes qu'on appelle des séismes artificiels que nous pouvons localiser. Et là, à partir de ces informations là-bas, on peut bien donner l'information à la, aux gens qui travaillent à l'endroit et pour essayer de les protéger. Donc nous ne
bon,
parlons
mais,
pas
mais,
dans,
mais
dans le vide, oui. Comme je vais dire, mais nous
Monsieur
avons
Katereka.
Besoin des équipements pour bien identifier
voilà.
Ces zones et bien vous donner l'information.
Monsieur Katereka, on a pris beaucoup de temps, je pense que le sujet est intéressant, nous allons y revenir prochainement, mais nous retenons qu'en cas de tremblement des terres, il faut rapidement sortir de la maison et se tenir loin des arbres, voilà. Si vous êtes dans un bureau, vous pouvez vous cacher sous la table pour éviter les dégâts. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique des Goma. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce magazine Okapi Service. À la prochaine.